Bonjour, c'est l'Atelier des médias.
Et bonjour Steven.
En ligne avec nous, c'est Philippe Couve. Philippe, les auditeurs les plus fidèles de RFI se souviennent sans doute de ton nom et de ta voix, et ceux de l'Atelier des médias encore plus, puisque c'est toi qui as créé cette émission en 2007.
Oui, c'était il y a bien longtemps maintenant. Pas mal de pixels sont passés sur les internets. Et j'apprends que c'est toi, Steven Jambot, qui va reprendre l'émission à ta charge.
Tout à fait, Philippe. Je prends la suite. Alors, pour nos auditeurs, rappelons que c'est toi qui avais impulsé cette émission, que Ziad Malouf, que l'on salue, avait pris la suite. Et certains se souviendront aussi de Julien Lebotte, qui avait fait un passage remarqué à la tête de l'Atelier des médias. Et Philippe, je vais te demander de rester avec nous parce que j'aimerais que tu nous parles du lancement du réseau Initiative Impact Investigation qui rassemble des journalistes d'investigation francophones des deux côtés de la Méditerranée. A tout de suite.
L'Atelier des médias, Steven Jambot.
Ma voix ne vous est pas encore familière, mais vous écoutez bien l'Atelier des médias de RFI. Ensemble, nous allons continuer à explorer ce monde des médias en perpétuelle mutation, et tout cela avec la même exigence et une curiosité intacte. Entretiens, reportages, échanges de pratiques et de savoirs, nous nous intéresserons notamment aux innovations qui ont un impact sur la façon dont vous vous informez.
Alors, le sujet du porno en général, moi, m'intéresse énormément. Je trouve que ça dit énormément de nos sociétés.
Cette semaine, et parce que demain sera célébrée la journée internationale contre les violences faites aux femmes, rencontre avec le journaliste indépendant Robin D'Angelo. Il vient de publier un livre intitulé « Judy, Lola, Sophia et moi » aux éditions Goutte d'Or, dans lequel il raconte son infiltration pendant un an dans le monde du porno amateur. Plongée journalistique à la première personne, dans un monde qui n'a pas vu passer la vague MeToo et où règne tout sauf le glamour. En fin d'émission, on vous proposera un nouveau rendez-vous avec Mondeblog Audio, mais tout de suite, on retrouve Philippe Couve. Philippe, en plus d'être le papa de l'Atelier des médias, tu diriges samsa.fr, c'est une agence de formation et de conseil pour les médias. Et comme je le disais en introduction, tu étais à Tunis il y a quelques jours pour les Assises internationales du journalisme. Cet événement a vu naître le réseau Initiative Impact Investigation, qui prévoit de rassembler des journalistes d'investigation francophones et dont Samsa est partenaire. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a donné envie à ces professionnels de l'information de se rassembler à Tunis et de lancer justement ce réseau?
Écoute, ça s'est passé de manière assez simple. Jérôme Bouvier, qui est le créateur de ces assises du journalisme, qu'elles aient lieu en France depuis une vingtaine d'années maintenant, ou à Tunis pour la première fois, et elles auront lieu à Tunis tous les deux ans désormais. Jérôme m'a demandé si j'avais pas une idée d'un projet qu'on pouvait monter entre des journalistes des deux côtés de la Méditerranée, là où je voyais des complémentarités nécessaires, des encouragements réciproques et des synergies à mettre en place. Et comme il sait qu'on travaille beaucoup avec Samsa à la fois ici en Europe et puis également en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Je lui dis qu'à mon sens, c'était dans le domaine de l'investigation aujourd'hui qu'il y avait pas mal de besoins, notamment parce que certains s'en souviennent peut-être, mais au printemps dernier, il y a eu les West Africa Leaks. C'était des révélations autour de fuites informatiques, les leaks, qui ont été coordonnées par deux organisations qui regroupent des journalistes d'investigation, que sont la cellule Norbert Zongo, qui est établi au Burkina Faso et qui regroupe des journalistes d'investigation de la sous-région, et puis ICIG, le consortium international de journalistes d'investigation, qui lui est à l'échelle mondiale. Et ils ont travaillé ensemble avec une bonne douzaine de journalistes pour essayer de voir ce qui, dans les précédents leaks, les Panama Papers, les Swiss Leaks, etc., pouvait avoir trait à l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées, de révélations qui ont été faites, et moi, à ma grande surprise, ça n'a eu quasiment aucun écho en dehors du continent. Donc, je me suis dit, pourquoi ça? J'ai commencé à discuter un petit peu avec eux. Et l'une des raisons, c'était le manque de liens, le manque de contacts, le manque de relations entre les journalistes d'investigation d'Afrique de l'Ouest et ceux de France, de Belgique, de Suisse ou encore du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie. Et donc, on a décidé, à l'occasion de ces assises de Tunis, donc qui ont eu lieu la semaine dernière, d'essayer de voir, de regrouper un peu ces journalistes venus d'Afrique de l'Ouest, des journalistes tunisiens, il y avait des journalistes algériens également, et puis des Français, On espère que pour la prochaine fois, on aura également des confrères belges et suisses qui seront là. Et tous ont jugé que c'était le bon moment, qu'il y avait effectivement des tas d'enquêtes à mener, des tas de problématiques qui traversaient les frontières et sur lesquelles il était intéressant, intelligent, pertinent de travailler ensemble. Donc, à l'issue de deux jours de travail assez intense à Tunis, on a décidé de créer ce réseau Initiative Impact Investigation.
J'aimerais te demander, Philippe Couve, est-ce que faire de l'investigation sur le continent africain implique des choses particulières et peut-être différentes ?
Il y a un point important à mes yeux qui a été soulevé par les confrères qui sont journalistes d'investigation et qui opèrent en Afrique de l'Ouest, c'est que contrairement à ce qui peut se passer dans les pays européens, par exemple, voire en Tunisie, ils n'ont quasiment pas la possibilité de s'appuyer à un moment donné sur l'institution judiciaire. Et ça, c'est un vrai problème, ce qui fait qu'ils sont souvent assez seuls face à des pouvoirs, que ce soit des pouvoirs économiques, que ce soit des pouvoirs politiques, que ce soit des pouvoirs religieux parfois. Et dans certains pays, c'est le cas en Tunisie, ils peuvent s'appuyer sur une institution judiciaire qui notamment est décidée à combattre les crimes économiques et décidée à poursuivre tout un tas de crimes et délits. Autant dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, c'est assez ambitieux de rêver sur cette prise du relais par l'institution judiciaire. Et donc les journalistes soulèvent des lièvres, révèlent des scandales ou des scandales potentiels et ensuite le relais souvent n'est pas pris par l'institution judiciaire, ce qui fait que pour eux se posent des enjeux et des questions de sécurité qui sont particulièrement importantes, sécurité physique, sécurité juridique, parce qu'ils peuvent être pris à partie aussi devant la justice, que ça soit au motif de défense de l'intérêt national, que ça soit au motif de diffamation, etc. Il y a différentes manières pour essayer de faire taire ces journalistes d'investigation, donc on va essayer nous de leur apporter aussi une forme de soutien et d'accompagnement dans ce domaine-là.
Merci Philippe Couve, nous partageons en ce moment même les liens vers ce réseau Initiative Impact Investigation sur notre compte Twitter @atelier_media. À bientôt Philippe.
À bientôt et puis je me permets de te transmettre tous mes encouragements et longue vie à l'Atelier des Médias et à sa communauté.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des Médias sur internet.
http://atelier.rfi.fr.
Quelques informations qui ont retenu notre attention cette semaine dans l'équipe de l'Atelier des Médias. Plan social massif au journal Fraternité Matin en Côte d'Ivoire. 123 salariés vont être licenciés, en plus de 32 départs volontaires prévus. La situation financière fragile du titre créé il y a bientôt 54 ans est invoquée pour justifier cette saignée. Si les syndicats acceptent la suppression d'emplois annexes tels que sur la sécurité ou l'entretien, ils ne comprennent pas pourquoi l'historique quotidien d'État se sépare de 11 journalistes, dont certains reconnus pour leur excellence. Dans une rédaction déjà en sous-effectif, cela fait effectivement beaucoup. Et des journalistes du titre ont pris la parole pour dénoncer la mauvaise gestion de la part de la direction, voire des détournements de fonds. Le plan social doit prendre effet le 18 décembre. Les salariés en appellent à l'État ivoirien pour préserver l'activité et se disent prêts à aller en justice si nécessaire.
Ce qui est curieux et révoltant à la fois, c'est que ceux qui sont sur la liste sont vraiment des gens dont une rédaction sérieuse a besoin pour tourner.
Dans le cadre du projet Globe Reporters, le journaliste français Raphaël Kraft est actuellement en reportage en Guinée-Conakry pour une durée de 6 semaines. Il est envoyé spécial de plus de 500 Globe Reporters français, des élèves qui sont en correspondance avec lui. Les thèmes de reportage parlent d'éducation, d'environnement, d'économie ou encore de solidarité. C'est à suivre sur globe-reporters.org et nous ne manquerons pas d'en reparler dans l'Atelier des Médias. Et enfin, ça a eu lieu mardi à New York, le correspondant de RFI en langue Haoussa au Cameroun, Ahmed Abba, s'est vu remettre le prix de la liberté de la presse internationale. Cette distinction lui avait été attribuée en 2017 par le comité de protection des journalistes lorsqu'il était encore emprisonné au Cameroun. Rappelons qu'Ahmed Abba a passé 875 jours en prison alors qu'il n'avait fait qu'exercer son travail de journaliste.
Vous avez cru à mon innocence. Les mots me manquent pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Bonjour Robin D'Angelo.
Bonjour Steven.
Judy, Lola, Sophia et moi, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Goutte d'Or, dans lequel vous racontez un an d'immersion dans l'univers du porno amateur français. C'est un récit cru qui donne à voir l'intimité des actrices et qui montre qu'à chaque clic sur des sites classés X, on entretient des réseaux qui brassent beaucoup d'argent et derrière lesquels il y a des histoires parfois compliquées. Dès la première phrase de votre livre, vous vous présentez comme un consommateur de porno, mais vous dites quelques lignes plus tard être aussi féministe. Laquelle de ces deux facettes vous a donné envie de passer en mode gonzo et de vous immerger dans ce milieu ?
Alors, ce sont vraiment ces deux facettes en fait qui m'ont donné cette envie de m'immerger dans le milieu. Moi, j'ai cette contradiction de me considérer plutôt pro-féministe, mais en même temps, je vais consommer un porno qui, pour le coup, ne l'est pas du tout, où généralement, les femmes sont dans une position de dominer vis-à-vis des hommes. Et c'est un petit peu cette contradiction que j'ai voulu explorer, dans le sens où, en plus, je pense que beaucoup d'hommes la partagent et que, malgré tout, ça reste un sujet tabou. Le porno, quand on en parle, c'est généralement pour faire des blagues, alors que ça peut être aussi un sujet très sérieux et très intéressant qui dit beaucoup de notre société. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu faire sauter la chape de plomb, en tout cas à mon échelle, autour de cette contradiction et mettre le sujet sur la table. Voilà.
Et pour vous intéresser à ce sujet sérieux, vous avez franchi plusieurs lignes rouges. Vous êtes retrouvé comme cadreur sur un tournage, ce qui d'ailleurs a donné lieu à un article à la première personne dans le magazine Néon. Vous avez aussi écrit un article complaisant, disons-le, publié dans Playboy. Ça pose de sérieuses questions éthiques. Pourquoi être allé aussi loin, Robin D'Angelo ?
Pour la première fois de ma vie, dans ma vie de journaliste, j'ai vraiment été confronté à un rapport de donnant-donnant avec les personnes que je rencontrais. Et effectivement, dans l'univers du porno, tout s'achète, tout s'échange, tout se fonctionne sur l'échange de services. Et moi, en tant que journaliste, la condition pour pouvoir intégrer ce monde, c'était de rendre service aux personnes qui, en échange, me rendaient service en me permettant d'assister à un tournage, en me donnant une interview ou ce genre de choses. Alors effectivement, à ce moment-là, moi, j'étais pigiste pour le magazine Playboy, donc magazine de charme référence. Ça a été une très bonne carte de visite pour des producteurs porno. Apparaître dans Playboy, c'est un petit peu une consécration, ça leur fait une belle vitrine. Donc ce que j'avais à offrir, par exemple, je disais au producteur, écoute, moi je peux parler de toi dans Playboy, faire un article sur toi, et en échange ça me permet d'assister à un de tes tournages. Et du coup, le producteur était assez séduit par cette proposition et ça m'a permis d'avancer. Donc ça, j'ai dû le faire deux ou trois fois avec le magazine Néon, je l'ai fait deux fois avec Playboy, donc effectivement.
Mais il n'y a pas un moment justement où vous vous êtes dit, là je suis en train d'aller trop loin et je ne suis plus journaliste? Ou est-ce que vous êtes toujours présenté comme journaliste? Je suis journaliste, j'ai des principes, des valeurs.
Alors, je me suis toujours présenté comme journaliste, sauf à un moment où, sur une scène assez violente avec un producteur qui voulait pas me voir, où les hommes sont cagoulés pour participer à cette scène pornographique, j'ai dû faire de l'infiltration parce que le producteur ne voulait pas de moi. Donc là, je suis vraiment venu avec ma cagoule sur la tête, il pouvait pas me reconnaître, pour voir un peu de mes propres yeux comment ça se passait. Mais c'est vrai que le reste du temps, je suis présenté comme journaliste. Malgré tout, à force de rencontrer les gens, on entretient des relations d'amitié, et ce donnant-donnant aussi peut parfois vous mettre en porte-à-faux. Et la ligne rouge, j'ai un exemple très clair, je l'ai pas franchi à un moment, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit peut-être que je vais trop loin. C'est une actrice, par exemple, qui me rend service en m'expliquant des choses assez confidentielles ou en me fournissant des documents. Et à la fin, elle m'explique, elle est pas française, elle m'explique, moi je viens à Paris prochainement, je fais un peu d'escorte et de tournage, est-ce que tu pourrais pas me trouver des clients ou des tournage. Alors sur les tournages, je lui fais ok, ça me posait pas forcément trop de problèmes, et puis après elle revient vers moi en me demandant des clients d'escorte, si j'avais pas des copains qui pourraient être intéressés. Et là effectivement, on rentre presque dans le proxénétisme. Mettre en rapport quelqu'un, une prostituée et un client, et faire l'intermédiaire, c'est la définition du proxénétisme. Et là, à ce moment là, j'avais envie de lui rendre service, parce qu'en plus je préférais qu'elle aille voir, si elle devait voir un client, quelqu'un que je connais, dont je savais qu'il allait bien se comporter, plutôt que n'importe quel quidam. Mais bon, au final, je me suis dit non, là, ça serait vraiment basculer de l'autre côté et faire quelque chose d'illégal et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc, je lui ai gentiment fait comprendre que ça se ferait pas.
Rappelons que ce 25 novembre, donc demain, dimanche, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et vous racontez dans votre livre que vous êtes retrouvé à un moment sur un tournage où clairement le réalisateur, producteur de la vidéo fait de la rétention d'informations, c'est le terme que vous avez employé dans certaines interviews, auprès de l'actrice pour ne pas lui dire les scènes et les actes sexuels qu'elle va subir. Est-ce que là, justement, vous vous êtes pas retrouvé en situation, à la fois éthiquement c'est gênant, mais aussi juridiquement, à vous dire si ça tourne mal, je risque gros?
Alors effectivement, bah, je vais vous raconter la scène. Moi, je me retrouve donc plusieurs fois à être cadreur sur des scènes porno. Et bah, lors de cette journée, avant la scène, le producteur vient me voir et me dit « Surtout, tu coupes jamais la caméra parce que moi, je veux la réaction spontanée des filles. » Et il me dit « Moi, les actrices, je leur explique pas en précision les pratiques que nous allons faire. Je leur dis grosso modo le pitch de la scène, mais je rentre pas dans le détail sur les pratiques parce que je veux avoir leur réaction spontanée. » Et là, il me dit « Ça passe ou ça casse ?» Donc effectivement, éthiquement, en tant que journaliste à ce moment-là, bah, je me dis, bon, bah, j'espère qu'il va rien se passer, rien de trop grave, et la scène démarre, et le producteur, qui est aussi acteur de la scène, commence à être de plus en plus brutal avec l'actrice, c'est le principe de ses vidéos à lui, donc il commence à lui mettre des gifles, ou à lui cracher au visage, ce genre de choses, et puis à un moment, l'actrice bah, qui vient de se refaire faire les seins, se retrouve plaquée sur un canapé, et là le producteur commence à lui gifler les seins de façon assez violente, et là l'actrice qui a super mal explose de rage et commence à lui dire mais qu'est-ce que c'est que ça, tu m'avais pas prévenu, tu m'avais pas dit que ça serait brutal, c'est n'importe quoi. Et là effectivement moi je suis derrière la caméra et je me dis est-ce que je dois intervenir ou pas, et je me dis bah je vais intervenir si je vois qu'elle a besoin de mon aide, si à un moment ça commence vraiment à chauffer.
Et vous avez eu à le faire?
J'interviens, et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai absolument pas eu à le faire parce que je m'attendais à ce que l'actrice parte ou continue à lui rentrer dans le ou quoi que ce soit, et en fait après 5 minutes où elle le pourrit, elle lui a juste dit à un moment brutal sexe, c'est le sexe brutal, c'est plus d'argent, et du coup bah finalement ils se sont arrangés comme ça, et finalement bah c'est là où c'est très triste, mais c'est là où on est pris finalement dans ce système qui est plus fort que soi, en fait, que ce qu'on voudrait. Bah c'est que finalement même si j'étais intervenu, finalement j'aurais pourri son tournage et elle aurait pas eu plus d'argent, et son métier bah c'est ça, c'est d'accepter la contrainte sexuelle, et elle finalement elle a jamais vraiment vu où était le problème à ce genre de pratique. On en a parler après par texto.
Donc là, en fait, vous venez de répondre un petit peu à une question qui est en préambule à votre livre. C'est pourquoi le mouvement MeToo s'est-il pour le moment arrêté aux portes de l'industrie pornographique? Pourquoi silence? Vous avez la réponse maintenant, du coup.
Bah oui, la réponse est toute bête, c'est que bah, les actrices finalement, pour rentrer, ce qui fait leur caractère professionnel d'actrice, c'est d'accepter la contrainte sexuelle. Leur métier, bah, c'est de monnayer une forme de contrainte sexuelle. Donc ça paraîtrait presque incongru de dénoncer la contrainte sexuelle quand bah finalement on se rémunère dessus. Et alors c'est pas du tout pour une critique des actrices, elles font ce qu'elles peuvent, souvent liées à leur parcours de vie et tout ça. Mais ce qui est intéressant de voir, bah, c'est comment des hommes, des producteurs en profitent dans ce secteur pour toujours essayer un petit peu de repousser les limites, toujours mettre les actrices le dos au mur pour aller plus loin dans les pratiques et dans les comportements.
Merci Robin D'Angelo d'être venu raconter votre expérience immersive dans l'atelier des médias. Et on rappelle que votre livre « Judy, Lola, Sophia et moi » est paru aux éditions Goutte d'Or.
Merci beaucoup pour l'invitation, merci surtout à RFI.
L'atelier des médias, c'est presque fini. On vous propose un nouveau rendez-vous avec un mondoblogueur. Mondoblog, c'est la plateforme de blogueurs francophones de RFI. Et le 25 novembre étant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, on vous propose d'écouter le journaliste et blogueur malien Georges Attino. Il a publié sur Mondoblog un article intitulé sarcastiquement « Chez moi, on ne balance pas les porcs, ils sont halal ».
Au Mali, on refuse de se regarder en face. On botte en touche en cherchant des causes externes à nos problèmes internes. Quand on parle de droits des femmes, on fait référence à une influence étrangère. L'argument phare, c'est de dire que l'Occident souhaite modifier nos modes de vie. Mais on oublie que les victimes de ces crimes sont des personnes qui sont nées et qui ont grandi chez nous. Quel est le rapport entre une femme battue jusqu'à la mort, une fille victime de viol, et la France ou l'Union européenne? Aucun. Au Mali, qui n'a jamais entendu autour d'un thé des phrases du genre « Les femmes sont mauvaises, mais nos mères n'en font pas partie ». Parce que dans la tête de l'homme malien, il y a plusieurs catégories de femmes. Les hommes pensent qu'ils doivent impérativement respecter une catégorie de femmes, les mères, mais pas forcément les autres, qui doivent plutôt se soumettre. Il faudrait amener les hommes à comprendre qu'ils doivent du respect à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, mères ou non. Chez moi, c'est courant de voir des publications du genre après une affaire de viol. Qu'est-ce que la fille faisait là-bas? Les filles s'habillent mal et nous provoquent. Des arguments du genre qui tentent de défendre l'indéfendable.
Merci Georges, on retiendra la formule « balancer un porc, c'est réduire ses perspectives de mariage ». Et vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de l'article de Georges Attino sur mondoblog.org.
RFI. www.radioscoop.ci.
Et c'est la fin de cette émission qui a été préparée avec Camille Sarrazin, Léo Caravagna et Camille Deloche. À la réalisation, Simon De Creuse. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio et quand vous voulez, en podcast.